France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous embarquons sur le Normandie, le plus beau paquebot du monde, mais aussi le titre d'une opérette de 1936, composée par Paul Misraki sur un livret du cinéaste Henri Decoing. Elle est à l'affiche la semaine prochaine et pour en parler, je reçois les fils des auteurs, Christophe Misraki et le romancier Didier Decoing. Ils feront revivre deux pères extraordinaires et leur amitié à la scène comme au cinéma. Mais puisqu'on parle beaucoup en ce moment de grands débats, écoutez pour commencer ces échanges compliqués qui peuvent survenir au cours d'une simple partie de bridge.
Venez, venez, soyez aimables, venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux, le bridge est adorable. Comment vous n'êtes pas très forte? Ça ne fait rien du tout, qu'importe. Si vous gaffez, nous fermerons les yeux.
Asseyez-vous, vous ne pouvez pas y couper.
C'est moi qui donne.
Allez, coupez.
Coupez.
Tic. Deux carreaux.
Trois sans atout.
Bon, dame.
Trois.
Allez. Honneur sur honneur.
Non, mais qu'est-ce que tu fais?
Mon as de pique.
Comment l'as de pique? Comment
l'as de pique?
C'est fou, je ne puis pas admettre qu'on me coupe quand je suis maître.
Et c'est dans la porte du mort qu'on joue.
Pour ne rien compromettre.
Et puis il existe une raide. Dans sa longueur, on joue sa faible.
Allons, mademoiselle, mais à quoi pensiez-vous
quand on n'a qu'un tout petit jeu de rien du tout?
On ne demande pas 300 à tout.
Messieurs, vous n'êtes pas aimables. J'étais venu à votre table. Le bridge est un jeu qui me fait horreur. Le bridge est détestable. Et puis d'abord, permettez que je vous explique que pourquoi j'ai joué mon as de pique. C'est que j'ai cru couper la dame de cœur. Et vous n'allez tout de même pas m'avaler. Pour deux rois, c'est pour un petit valet.
Oh, alors, mademoiselle, je vous en prie.
Consolez-vous, mademoiselle. Nous avions perdu la cervelle. Vous n'aviez pas besoin de faire grand chelem. Allez pour qu'on vous aime. Laissons ces cartes imbéciles.
Laissons ces cartes imbéciles.
Séchez vos cils et vos pupilles.
Je sèche mes cils et mes pupilles.
Quand on a des yeux aussi doux que vous.
Même avec un tout petit jeu de rien du tout.
On peut demander quatre
sans à tout.
Venez, 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 venez.
Venez, venez, soyez aimables. Venez bridger à notre table. Le bridge est un jeu calme et merveilleux.
Le bridge est adorable.
Et vous avez certainement reconnu la voix de Mireille dans cette chanson qu'elle a écrite pour la musique sur des paroles de Jean Nohain. C'était au piano, ce n'était pas elle, c'était Georges Tabé qu'on entendait aussi chanter avec son duettiste Jacques Pils et Jean Sablon. Voilà, c'est la partie de bridge, un petit chef-d'œuvre de la chanson française de 1933.
Thank you.
l'orchestre des Boston Pops sous la direction d'Arthur Fiedler dans ce cancan de Geneviève de Brabant d'Offenbach, histoire de vous rappeler aussi qu'évidemment, toute cette année 2019, on fête les 200 ans de la naissance d'Offenbach. On aura beaucoup dans cette émission l'occasion d'y revenir.
Étonnez-moi Benoît Dutertre, France Musique.
Mais l'urgence en matière d'opérette, c'est pas si souvent qu'on a l'occasion à Paris d'aller voir un spectacle rare et il faut se précipiter lundi et mardi à la Nouvelle Ève à Paris pour découvrir l'opérette Normandie de Paul Misraki et Henri Decoing. C'est vraiment une actualité formidable, d'autant plus que c'est une production de la compagnie des Frivolités Parisiennes, mise en scène par Christophe Mirambeau et à laquelle ont été associés les fils des deux auteurs que je reçois ce matin, Christophe Misraki et Didier Decoing. Ils ont mis la main à la pâte, en tout cas ils ont suivi avec beaucoup d'attention cette renaissance d'une œuvre, une œuvre dans laquelle on a conservé au moins le souvenir d'un tube, celui que vous allez entendre maintenant, avant de retrouver donc mes deux invités.
Et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit votre malchance, dites-vous que ce n'est rien. Tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper de la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'alma. Au concert colonne, éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef d'une voix rageuse lui dit: nous jouons à nos airs et vous vous jouez sans brémeuse. L'autre dit: qu'est-ce que ça peut faire? Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la bioxine. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'alma. À la chambre, les honorables, je veux dire les députés, ne sont pas du tout aimables pour ceux de la majorité. Afin de calmer leur rancune, Léon Blum, levant le poing, devrait dire à la tribune: camarades, écoutez bien, eh bien ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de retourner en Palestine. Ça vaut mieux que de faire le Blum au fond de l'alma. Je ne connais pas l'orthographe, je suis pas la seule à Paris. Et souvent je fais des gaffes, ça déplaît à mon mari. L'autre jour il me dit: caresse, ça s'écrit avec un C. J'y répondis tout d'une pièce: avec un Q, c'est plus gai. Et ben ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'alma. On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que ça ne fait pas bien. Cette petite queue qu'on mutile, dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit: allez vite, vous êtes mon affille, hein. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la bioxine. Ça vaut mieux que de faire le soif au fond de l'alma.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soif au fond de l'alma.
Bonjour Christophe Misraki.
Bonjour Benoît.
Ça fait plaisir de vous revoir ici, oh oui, autour d'une des célèbres chansons de votre père. Celle-là, on la connaît tous, mais pas dans cette version-là.
Hein. Ah non, apparemment, celle-là était vraiment adaptée à l'actualité de l'époque.
Voilà, et il faut dire que cette chanson, donc, qu'on connaît par Ray Ventura et ses collégiens, en fait, elle a vu le jour dans une opérette
dans cette version, donc chantée ici par Suzanne Dehely, qui était l'une des créatrices de cette œuvre.
C'est ça, et l'opérette s'appelle
Normandie.
Et voilà.
Elle date de 1936, on est là aujourd'hui pour en parler. Peut-être on réécoutera un peu tout à l'heure les collégiens, mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir à nouveau pour cette occasion. Et d'ailleurs, en une année importante pour vous, en tant que descendant de Paul Misraki, vous fêtez plein de choses.
Absolument, on fête les 110 ans de la naissance, on fête les 20 ans du décès, on fête les 80 ans de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, et du coup on a monté tout un programme dont Normandie fait partie.
Voilà.
Mais on a aussi pas mal d'autres scènes et des tas de choses à trouver sur la page Facebook Paul Misraki et sur le site paulmisraki.fr.
Merci,
Benoît.
Normandie vient d'être donnée en avant-première ou même en première au Théâtre Impérial de Compiègne. Ça va être repris dans quelques jours à Paris à la Nouvelle Ève. Et pour en parler, pour parler d'autres choses encore, vous êtes venu, vous m'avez fait très grand plaisir, en compagnie de Didier Decoing. Bonjour, Didier.
Bonjour.
Je suis heureux de vous voir aussi. Je m'attendais pas d'ailleurs, finalement, tellement, avant de me pencher sur cette opérette, à avoir l'occasion bien agréable de vous recevoir ici pour parler d'opérette, de musique, de chansons, de cinéma, parce que cette œuvre, Normandie, en fait, elle a été écrite sur un livret de votre père,
Henri Decoing, oui.
Le cinéaste Henri Decoing.
Oui, il avait fait le voyage sur le Normandie aux États-Unis avec Daniel Darrieux,
ouais.
Et il avait été fasciné par ce paquebot. Et bon, il a voulu raconter ce que c'était la vie à bord de Normandie. Alors, il l'a totalement romancé. C'est totalement farfelu, hein.
Oui, c'est très loufoque.
Mais c'est une merveille. Mais c'est un côté Elsa Popine, d'ailleurs, je trouve, un petit peu.
C'est vrai.
Comme l'a dit un journaliste, la vraisemblance de l'intrigue importe peu.
Voilà, exactement. Mais alors, Didier, de quoi, en fait, je me demande, cette chanson de la Scarlatine, on la connaît tous, on l'a tous fredonné quand on était gamin, on l'a entendue à la radio ou autre. Quand vous l'entendiez, peut-être jeune garçon, vous saviez que ça avait un lien avec votre père?
Oui, parce que la première fois que j'ai entendu la Scarlatine, j'étais dans ma chambre, dans mon lit,
ah oui.
Et papa venait de me donner un bonbon. Enfin, il avait appelé ça un bonbon, et c'était une boule de naphtaline.
Oui.
Je l'ai sucé, je me suis vite aperçu que c'était parfaitement ignoble. Je l'ai recraché, et il m'a dit que c'était de la naphtaline. Mais tu sais, tout ça vaut mieux que d'attraper la Scarlatine. Je me suis dit, j'ai un père fou. Et en même temps, bon, il m'a raconté, mais voilà, c'est une les paroles d'une chanson. J'ai écrit une opérette sur Normandie, etc.
Dans laquelle il est dit, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline.
Que de sucer de la naphtaline, que de manger de la morora.
Exactement.
Que d'avaler de la morora. Que de sucer de la naphtaline.
Non, je
il
vous
adorait
pose,
cette chanson.
Je vous pose la question de savoir si vous en avez parlé, parce que vous avez écrit un livre passionnant sur votre père, Henri, ou le roman de mon père, et dans lequel on comprend qu'en fait, il avait conservé peu de choses, il parlait peu de son passé, enfin, c'est pas quelqu'un qui archivait toute son histoire.
Il jetait tout, il considérait que la vie humaine, c'était un flash,
voilà.
Merveilleux,
oui, oui.
Avec des couleurs sensationnelles, mais que ça valait pas la peine d'être conservé, en tout cas pas ce qu'il faisait lui.
Voilà, et si bien que du coup, quand vous avez commencé à vous intéresser de plus près à sa vie, notamment quand vous avez écrit ce livre, vous avez en fait mener quasiment l'enquête sur votre père.
Benoît, j'ai mis 30 ans avant d'oser écrire la première ligne.
Ouais.
Pour deux raisons. La première, c'est que je me disais, il faudrait que je trouve le ton qui aille avec le côté farfelu, on l'a bien compris en voyant Normandie, le côté farfelu de mon père. La deuxième raison, c'est je n'ai pas de documents.
Voilà.
Mais heureusement, j'étais marié, je suis toujours, à une fille formidable qui, elle, s'est chargée d'aller courir les musées, les mairies, là où on peut trouver du vieux papier, et où elle m'a rapporté, mais il me manque encore plein de
beaucoup
choses.
De choses. Alors c'est un peu le contraire chez les Misraki, hein.
C'est totalement le contraire, en effet. On a des placards admirablement bien rangés, auxquels on n'a pas
d'archives
touché
d'ailleurs, toute la carrière de votre père.
Avec toute la carrière de mon père, les musiques de films, 14 000 pages de partitions, des disques.
Voilà.
Et c'est incroyable. D'ailleurs.
Je peux témoigner, je les ai vus.
Mais non seulement ça, mais je vais même vous révéler ici un secret. Comment avons-nous appâté Didier?
Oui.
On a appâté Didier grâce à Laurent Ballandra.
Oui,
je travaille avec nous sur la boîte d'édition familiale Tout va très bien promotion. On a appâté Didier parce qu'on a donné à Didier le livre d'intention de mise en scène accompagnant le livret, tapé à la machine de l'époque avec les annotations à la main
de son père,
de Henri.
Henri de quoi? Alors, on va revenir à tout ça plus en détail. On va commencer par peut-être remonter un peu dans le temps. Et d'abord, peut-être avec ce personnage extraordinaire qui est Henri de Coing. Misraki est omniprésent aujourd'hui ce matin, mais lui a déjà consacré beaucoup d'émissions. Et je voudrais commencer donc par de Coing avec On l'associe souvent à Daniel Darieux, évidemment, mais avec une autre artiste qui a précédé, si j'ose dire, Daniel Darieux, juste avant d'ailleurs Normandie. Elle s'appelait Blanche Montel et j'ai retrouvé, tiens, ce petit duo d'opérette.
Car c'est ridicule par le temps qui court.
On peut m'affirmer que ce n'est pas la mode. Moi j'ai la méthode des tempérimés.
À la belle époque du temps d'autrefois, et quand on s'en moque, on a bien tort ma foi.
On était honnête instinctivement, sans paraître bête, c'est vraiment charmant.
Les jeunes filles, c'est très curieux, baissaient encore les yeux.
Et les hommes, sans plaisanter, savaient les respecter.
Et sans équivoque, on jurait sa foi. À la belle époque du bon temps d'autrefois.
La femme, aujourd'hui, restée naïve et fraîche, passe pour une pavèche, évitons la fuite.
Mais l'homme qui s'abstient, c'est bien plus vexatoire, passe pour une poire qui n'y connaît rien.
À la belle époque du temps d'autrefois, c'était moins loufoque et beaucoup plus courtois.
C'est à la famille et presque en tremblant qu'on demandait la fille en mettant des gants blancs.
Maintenant c'est moins élégant, on ne prend plus du tout de temps.
On se dit, tu me plais, je te plais, goûtons le bonheur complet.
On stocke, on se détoque
dès la première fois. À la belle époque, c'était mieux autrefois. On jurait sa foi à la belle époque du bon temps d'autrefois.
La Poule, c'était le nom de cette opérette de Christinet, avec ici Blanche Montel en duo, donc avec Adrien Lamy, en 1936, la même année que Normandie. Didier Decoing, Blanche Montel, ça a été une des compagnes de votre père qui a eu, on peut dire, une vie amoureuse assez riche.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était sa femme numéro 3, je crois.
Oui. Avant Daniel Darieux.
Juste avant Daniel. Et
c'est un personnage important de l'avant-guerre, cette Blanche Montel. Hein.
Oui, mais même d'après, parce qu'elle a été impresario
oui.
pour une société qui s'appelait Simura. Elle a été l'impresario d'acteurs extrêmement célèbres. Elle est restée dans le cinéma. Mais du temps de papa, effectivement, elle était actrice.
Elle était actrice et chanteuse, on l'entend
chanteuse,
ici.
Oui. Et chanteuse. Et c'était une femme absolument délicieuse.
Voilà, qui est morte en 1998, vous l'avez
connue.
Je l'ai très bien connue.
Je l'ai très bien connue et beaucoup aimée.
Voilà, Blanche Montel, qu'on vient d'entendre ici, et qui est l'occasion, oui, de rapidement, mais enfin, rappeler un peu cette vie d'aventurier incroyable qu'a eu Henri Decoing, à commencer par sa carrière de jeune sportif, par exemple.
Oui, il pensait que le seul moyen de s'en sortir dans la vie, c'était le sport. Il n'avait pas complètement tort. Hein. Lui, il était parti de... C'est comme au jeu de loi, il était parti de très très bas.
1890, à Paris.
Hein. Oui, le quart monde. Hein.
Voilà.
Carrément le quart monde. Enfin, son régal, c'était d'aller faire griller des sauterelles dans des boîtes de conserve sur un terrain vague. Il a eu faim, il a eu peur. On l'a retiré de l'école à l'âge de 8 ans pour qu'il aille livrer le lait parce qu'il fallait que la famille vive, qu'il était le seul capable de faire un truc. Et il a eu une enfance horrible.
Uh-huh.
Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était de dépasser les obstacles. Et puis un jour, il a découvert une piscine. Il allait livrer des fourrures, il s'est jeté dans la piscine, parce qu'il a trouvé que c'était beau, c'était bleu. Il l'avait dans la Seine habituellement, dans la piscine,
oui,
pourquoi
mieux.
Pas. Il s'est jeté dans la piscine, il ne savait pas nager. Il a sauté dans le grand bain. Donc il est allé au fond. Et à l'autre bout de la piscine, il a vu deux jambes de femme, les jambes de femme pour papa, toujours une importance considérable. Il a vu deux jambes de femme qui battaient doucement dans l'eau et s'est dit, avant de mourir noyé, il faudrait que je sache quel est le visage qui est appareillé avec ces jambes de femme. Donc il a progressé vers les jambes. Et puis il les a attrapés pour sortir de l'eau. Et la fille à qui appartenaient ses jambes a hurlé « Au secours, salaud, sors de là, petit sacripant, etc. » Et papa, la bouche pleine de l'eau, « Je suis en train de me noyer, je suis en train de me noyer. » »« Te noyer, t'as vu la vitesse à laquelle t'as traversé la piscine ?» En entendant vitesse et piscine, le maître nageur est arrivé. Il a dit « Mais effectivement, mon garçon, tu nages bien. » Enfin, c'est très laid ce que tu fais dans l'eau.
Ouais.
Mais tu déplaces vite. Et il l'a entraîné. Et papa est devenu champion de natation, champion de France du 200 mètres, du 400 mètres, je crois aussi.
Ouais.
Et puis, il a été capitaine de l'équipe de France aux Jeux Olympiques.
Aux Jeux Olympiques, carrément, ouais. Oui.
Donc voilà, et puis après, il est passé à la boxe, il était supérieur du Tour de France.
Il a tout fait, hein.
En sport, alors, il a tout fait.
La boxe, il lui a d'ailleurs même consacré un livre quasi dadaïste.
15 rounds, qui est un.
15 rounds.
Et un film. Son premier film qui s'appelle Toboggan, ouais, avec Georges Carpentier, qui était le boxeur champion de l'époque, et que j'ai vu récemment à Lyon à l'occasion du Festival Lumière. Et je dois dire que Georges Carpentier était non seulement un boxeur sensationnel, mais un très bel acteur.
Ah oui.
J'étais très très impressionné par son talent d'acteur. C'est aussi un film à ressortir.
Et alors, ce qui est assez fascinant chez lui, c'est ce passage qui s'est fait, on a l'impression, tout naturellement, mais qui n'était pas prévu, justement, du sport à l'écriture, de l'écriture au cinéma, en passant par, le journaliste,
bah
etc.
Oui, c'était quelqu'un de curieux.
Voilà.
Donc, dès qu'il voyait quelque chose qu'il connaissait pas, il se précipitait pour voir à quoi ça pouvait bien ressembler.
Voilà.
La seule chose qui était constante chez lui, oui, qu'il a toujours aimé, je dirais même toujours adoré, c'était la musique.
Ah oui.
On avait à la maison, on a eu comme tout le monde un vrai électrophone,
ouais,
mais on a eu des appareils pour lire des 78 tours, avec des vraies aiguilles, hein, mm-hmm, qui grattaient le disque, et papa faisait tourner ça à longueur de journée, et moi j'ai eu une enfance...
Qu'est-ce qu'il écoutait ?
Ah, tout et rien.
Tout et rien.
Je me rappelle Le Voyage à Cuba, Xavier Cugat, je crois.
Oui, bien sûr, oui.
Hein, Le Voyage à Cuba, des chansons de Patachou.
Ah, bah, t'avais bon goût.
Oui, il n'est pas mauvais goût du tout. Des opérettes, alors, il était fou d'opérettes. Uh-huh. Et alors, quand le cinéma a sorti des choses comme West Side Story ou Les Parapluies de Cherbourg, alors là, il est devenu hystérique de bonheur.
Ah oui.
Parce que un film d'une heure et demie entièrement chanté, il m'y a emmené, on l'a vu trois fois dans la journée.
Alors je propose, Didier Decoin et Christophe Misraki, tiens, qu'on écoute la voix d'Henri Decoin. J'ai retrouvé un petit document, c'était à l'occasion de ses 20 ans de cinéma. Et il raconte justement comment est-ce qu'il en est arrivé à faire du cinéma. En tout cas, c'est sans doute un des aspects de ses débuts au cinéma sur lequel il insiste ici.
Eh bien, nous sommes extrêmement entourés. Sont les 20 années de cinéma d'Henri Decoin. Nous avons à nos côtés Françoise Arnoul qui a pris un casque, Henri Decoin qui a pris un casque, et toute la foule des photographes s'est ruée vers nous au moment où l'émission commençait. Je voudrais tout d'abord vous demander, Henri Decoin, de nous dire à qui vous devez cette merveilleuse carrière de 20 années de suite.
Oh ben c'est facile. Non, c'est très facile. Non, je travaillais au journal Lotto. J'étais journaliste sportif. Et un jour, j'ai lu que la maison Osso, en 1930, cherchait un scénario sportif pour Albert Préjean et Annabella. Immédiatement, je me suis mis à écrire un film, un scénario qui s'appelait Un soir de rafle. Je suis allé à la maison Osso. Et qui ai-je rencontré là? Je ne savais pas qui c'était d'abord. C'est monsieur Henri-Georges Clouzot, qui était déjà à cette époque-là un grand bonhomme et qui m'a appris de A à Z tout mon métier. Ça, personne ne le savait. Je suis très heureux pour mes 20 ans de cinéma de le dire aujourd'hui.
La première traversée transocéanique du paquebot Normandie a été précédée au Havre par une grandiose inauguration. Monsieur Albert Lebrun, président de la République, et Madame, marraine du navire, accompagnée de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on remarquait Monsieur William Bertrou, ministre de la Marine Marchande, ainsi que Monsieur le baron Gueffier d'Estroit, ambassadeur de Belgique, ont parcouru les salons splendides, les jardins d'hiver, la piscine, la chapelle et le théâtre. Avant de présider un dîner de gala dans le cadre féerique de la grande salle à manger, d'onyx, d'or et de cristaux, dans son allocution, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à tous les promoteurs et artisans de ce chef-d'œuvre, célébrant ainsi le bel acte de foi nationale qu'exprime cette magnifique réalisation. Plus tard, Madame Germaine Rover de la Comédie Française enthousiasma l'assistance en disant avec émotion le beau poème de Monsieur André Dumas, « Ô Normandie ! »
Ah, c'était pas mal la vie sur les paquebots. Ça me fait plus rêver que les paquebots de croisière d'aujourd'hui. Je sais pas votre cas, Christophe Mistraki.
Clairement.
Hein, très, très clairement.
Entre la salle de bain, le...
J'ai fait l'année dernière, on a fait la croisière sur le Queen Mary 2.
Oui.
Qui est encore un vrai.
À l'ancienne.
Ça, c'est un vrai paquebot à l'ancienne.
Vous avez, j'appellerais la nostalgie des paquebots,
Terriblement. Ils sont cultives, en plus.
Oui, c'est vrai. Donc,
c'est peut-être du masochisme, mais j'ai adoré les paquebots dès que j'ai pu commencer à lire.
Ah oui.
Et j'ai lu des bouquins d'un formidable écrivain maritime qui s'appelle Édouard Pesson.
Oui.
Qui a écrit Partie de Liverpool, Capitaine de la route de New York. Mais c'était des vieux paquebots avec des rivets partout qui crachaient de la vapeur par toutes leurs cicatrices. Pour moi, c'était ça la vie, monter sur ces trucs-là.
Alors, il faut dire qu'en plus, vous vivez en Normandie, comme le paquebot que nous aimons, n'est-ce pas ? Mais pas tout à fait au Havre, un peu à l'autre bout, Didier Lecoing.
Cap de la Hague.
Au Cap de la Hague, voilà, tout près du Cap de la Hague. Et voilà, je trouvais ça bien de retrouver cette actualité donc correspondant au lancement du Normandie et à l'opérette dont on va parler dans un instant, mais je reviens juste à ce que disait à l'instant Henri Decoing, l'influence de Clouzot. J'adore Clouzot et j'imagine vous qui avez écrit un dictionnaire amoureux des faits divers, que le monde noir est plein de faits divers merveilleusement tournés de Clouzot, ça doit vous toucher aussi.
Ah, j'ai le cinéma de Clouzot. Mais parce qu'en plus, si vous voulez, on était baignés. Papa était quelqu'un qui partageait avec ses enfants.
Oui.
Bon, avec moi, son fils, il savait que j'étais gourmand de tout ça. Et bon, il m'a emmené voir des films de Clouzot. Mais par un, tout le Corbeau, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai vu le Corbeau, mais j'étais un petit garçon.
Ouais.
Ce qui est pas un film pour petit garçon,
non,
le Corbeau.
Hein.
Mais alors, il m'avait tout expliqué. Ce que c'était que la délation, ce que c'était que cette espèce d'hypocrisie rampante qu'on peut trouver dans certaines petite ville, c'est peut-être ça qui m'a permis de devenir écrivain.
Oui.
C'est sûrement fond, ça.
C'est sûrement
c'est
ça.
Cette imprégnation, comme ouais. ça, des petites choses, des petits faits divers de la nature humaine.
Oui, bien sûr.
Dans ses côtés étriqués. Et dans ses côtés grandioses aussi.
Alors, de quoi on l'a laissé ici avec Clouzot, vraiment son premier scénario, et puis très vite donc il devient cinéaste ensuite, en commençant par les adaptations des films qu'on tournait dans plusieurs langues à l'époque, en français, en allemand. Il a commencé par faire des adaptations de films en français, comme ça.
Oui, alors on
avant de faire ses propres films.
Par exemple, dans les studios de Berlin, voilà. On faisait un film. Il y avait la scène tournée en allemand par les acteurs allemands, puis ensuite arrivaient les acteurs français, dans le même décor, la même disposition scénique, mais la direction d'acteurs était faite par un réalisateur français. Et papa fait beaucoup de mise en scène. Alors, il en profitait pour apprendre ce que c'était qu'une mise en scène, que l'emplacement d'une caméra, etc. Il en a fait un certain nombre, oui.
Un certain nombre, et puis alors, donc dans les années 30, il devient vraiment cinéaste, et par un hasard que je ne m'explique pas, mais que l'un de vous va peut-être m'expliquer maintenant, tout d'un coup, au milieu de cette carrière où il a tourné énormément, énormément de films, il écrit un livret d'opérette avec la musique de Paul Mistraki. Vous avez une idée de la...
Oui, non, mais c'était une sorte de journal de bord, si vous voulez. Il avait adoré sa traversée sur le Normandie.
Ah oui.
Et il voulait pas que ce souvenir se perde.
Oui.
Et le meilleur moyen de garder mémoire de ça, c'était de le raconter à sa façon et de le faire partager à un maximum de gens.
Oui.
Et c'est ce qu'il a fait. Qu'en plus, il trouvait que Mistraki était un compositeur hors pair. Et il s'est dit, pourquoi pas? Voilà, on va faire une opérette. Et ils ont fait ça.
Voilà. Et ça a été. Et
ce que me disait Christophe, ce que j'ignorais, c'est que Paul Mistraki avait 28 ans à l'époque.
C'est ça, il avait 28 ans et il venait de composer Tout va très bien, Madame la Marquise.
Ouais, voilà. Un bébé, c'était
pas mal. Et venait donc chez moi. Donc, il avait toutes les raisons de penser que ce jeune compositeur de talent pouvait faire quelque chose d'enthousiasmant, qui allait pouvoir mettre le public dans la poche, parce que franchement, Tout va très bien, Madame la Marquise, à l'époque, c'est quand même
un énorme tube.
Voilà. Un million de disques vendus en 1935.
Alors qu'il n'y a pas le même moyen de promotion qu'aujourd'hui.
Et certes, ni la même diffusion des appareils à disques.
Normandie, donc l'opérette voit le jour au Théâtre des Bouffes parisiens en octobre 1936, le 3 octobre. On va y revenir maintenant plus en détail et je vous propose d'écouter un petit extrait de la bande que nous conservons à la radio grâce à nos petits trésors du service Radio Lyrique. C'est une intégrale de l'opérette Normandie qui a été enregistrée en 1954 et on va en entendre tout de suite un petit morceau. La chanson s'appelle « On n'est jamais content » et dans laquelle on retrouve aussi quelques-uns des rôles assez pittoresques de milliardaires américains qui sont au cœur de l'intrigue donc de Normandie.
Dites, elle est revenue ?
Qui ?
Cette créature extraordinaire, comment l'appelez-vous?
Catherine.
Oh, very exciting.
Je ne l'ai pas revue, monsieur.
Croyez-vous que, enfin, je puisse avoir une chance?
Personnellement, si j'étais une femme, monsieur ne me déplairait pas.
Enfin, je sais que je suis un peu... Enfin, que j'ai bonne mine ou quoi, mais enfin, j'aimerais mieux être comme vous.
Oh, monsieur me flatte. Moi aussi, je voudrais être comme vous.
Vous voyez, on n'est jamais content.
Quand on n'en voit que la surface, tous nos bonheurs semblent surfaits. Quoi qu'on paraisse ou quoi qu'on fasse, on n'est jamais très satisfait. Le sous-préfet rêve d'être poète, le contribuable veut être percepteur, le brave mineur veut devenir vedette, et nos vedettes veulent redevenir mineurs. On n'est jamais content de ce qu'on a, et pourtant la vie est belle. Depuis toujours le monde ronchonna, à quoi bon, moi je me plains pas. Pourtant j'ai un défaut, je le sais, je suis gras, souvent ça me tourmente. Mais si je suis un gros, je suis pas un gras, jamais je ne me lamente. On n'est jamais content de ce qu'on a, et l'on veut des choses nouvelles. Je suis pas écrit, pas être un agrat. Vive la vie, je l'aime comme ça. Vive la vie, je l'aime comme ça. Da, 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 da. Ainsi partout les uns envient ce que toujours les autres ont. Chacun désire une autre vie. Des jeunes filles aux vieux garçons, les écrivains rêvent d'une coupole, les jolies femmes rêvent d'un beau collier, le bon bourgeois rêve d'une gondole, et sa bourgeoise rêve d'un gondolier. On n'est jamais content de ce qu'on a, et pourtant la vie est belle. Depuis toujours le monde ronchonna, à quoi bon, moi je me plains pas. Ma fille veut un collet de chinchilla au lieu d'un manteau de loutre. Comme ce sera du lapin dans les deux cas, qu'est-ce que ça peut bien foutre? On n'est jamais content de ce qu'on a, et l'on veut des choses nouvelles. C'est pas Brunswick qui me contredira. Vive la vie, je l'aime comme ça. Vive la vie, je l'aime comme ça.
Un extrait de Normandie dirigé par Marcel Cariven, enregistrement de la radio avec ici Robert Burnier, donc un des Américains avec le faux accent évidemment pour que ça fasse vrai. C'est un extrait donc de Normandie. Je vous voyais Christophe Misraki qui a sorti la partition pour vérifier des petites choses. Vous avez alors qu'est-ce qu'il y avait dans vos merveilleux placards sur Normandie quand vous avez commencé à vous intéresser à cette œuvre oubliée et pas reprise depuis sa création, je crois.
Oui, pas reprise sur scène depuis sa création en 36, oui.
Voilà.
Et ah bah, dans les placards, il y avait beaucoup de choses. Il y avait le livret tapé à la machine de l'époque, le livret copié de l'époque très mal relié que j'ai là.
Oui.
Il y avait les partitions originales au crayon, qui comportaient d'ailleurs pas mal d'erreurs, d'après ce que j'ai compris.
Plus des petits formats aussi.
Plus des petits formats, plus la partition intégrale de l'œuvre en commercial, avec une couverture assez rigolote. Non, il y a vraiment vraiment beaucoup de matière. Et en fait, ce que je faisais, c'était que je regardais où se trouvait cette réplique, enfin cette chanson de Ralph dans le livret d'origine, qui me permettait de vérifier s'il y avait eu des changements ou pas.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu des conditions de la création au Bouffe Parisien de cette œuvre? Ça a été un succès, un grand succès. Enfin, moi, j'ai vu des critiques enthousiastes de Reynaldo Hahn, d'Émile Villermoz, qui saluent tous l'entrain de la pièce, la qualité de la musique de Misraki également. Mais
c'était une forme de triomphe.
Hein. Ça a été une forme de triomphe.
Didier Decoin, oui.
Papa disait que ça avait été un des plus beaux moments de sa vie.
Ah, à ce point-là, oui.
Ouais. Sa vie de créateur.
Oui, parce que finalement, c'est une des rares fois où il s'est essayé au théâtre, lui, qui était
il avait fait déjà quelques pièces qui avaient pas mal marché, mais Normandie correspondait à ce qu'il avait envie de faire.
Oui.
C'est-à-dire quelque chose de joyeux avec de la musique.
Voilà, avec de la musique.
Et d'un musicien qu'il aimait. Bon, donc c'était une complétude, si vous voulez.
Et avec un sujet qui tourne quand même uniquement autour de la séduction.
C'est un pur vaudeville.
C'est un pur vaudeville, oui. Avec quelques petites leçons de philosophie qui sont pas mal venues. La relation des petites jeunes filles avec leur papa.
Voilà.
Comment aimer sans bruit. Non, c'est...
L'amour et l'argent, parce qu'il y a d'un côté les milliardaires et de l'autre côté les fauchés qui travaillent sur le bateau mais qui ont pour eux d'être jeunes et beaux.
Il y a quelques répliques à des milliardaires qui se vantent d'avoir acheté une vieille église en France.
Oui.
Alors ils veulent la faire reconstruire pierre par pierre.
Ce qui se faisait à l'époque, d'ailleurs.
Et à un certain moment, bon, il se croit ruiné, il est obligé. Alors, il vend son église à quelqu'un du bateau. Et 10 minutes après, il est de nouveau dans ses fonds et il rachète l'église. Mais le type dit, vous ne l'avez pas vendu ce prix-là. Elle a augmenté. Il dit, ah ben oui, mais elle a vieilli. En 10 minutes, vous prenez, elle a pris. C'est aussi une grande réflexion sur l'argent, ce film.
Oui, parce qu'il y a aussi toute une histoire avec les cours de la bourse qui varient pendant le voyage.
Mais qu'on va des emplois, de l'argent et de... Papa était très sensible à ça. Et puis, une attention, ça c'est constant chez lui, une attention aux petites gens.
Oui.
Car le commandant du Normandie, on le voit pratiquement peu. Enfin, mais alors, on voit beaucoup le barman, on voit le radio. On voit des petites gens qui ont des ennuis et qui vont arriver à s'en sortir.
Et qui s'en sortent très bien et qui sont les héros, finalement, de cette...
Comment est-ce qu'on résumerait l'histoire en quelques mots? C'est pas facile.
Ce que je voudrais dire... voilà, parce que justement, je pense qu'on peut pas la résumer parce que... et je pense que c'est plutôt à moi de le dire qu'à Didier. Dans le livret d'Henri de Coin, il y a une quantité de renversements de situation qui vraiment crée de formidables malentendus, et puis des rebondissements, et puis ensuite on repart dans l'autre sens, et on y croit, et puis on n'y croit plus, et franchement, ça ne se résume pas, c'est juste jouissif.
Oui, d'ailleurs...
Mais c'est jubilatoire.
C'est jubilatoire.
Deux coins qu'on associerait peut-être comme ça, très un peu hâtivement, à des films plutôt assez sombres, comme La vérité sur Bébé Don, Jourasia sur la chenouf. En fait, il aimait la comédie.
Oui, il faut voir ses films d'avant-guerre, avec Darieux, Battement de cœur, Premier rendez-vous. Ce sont des films extrêmement gais.
Et la rencontre, alors, entre ces deux bons hommes, vous avez quelques éléments, à part, bon, voilà, sympathie immédiate, talent conjugué, il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de...
Non, moi, ce que je comprends, c'est que Henri de Coin a sollicité le compositeur de Tout va très bien, Madame la Marquise.
C'est lui
qui
est allé le chercher.
Clairement.
Et Paul Misraki, qui au fond était plus connu par le monde de la chanson, donc s'est lancé dans cette opérette. Mais il en a refait une autre plus tard.
Il en a fait plusieurs autres opérettes. Mais je voudrais revenir aussi sur ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est très important dans la carrière de Paul Misraki aussi. C'est que grâce à Henri de Coin, se produit la rencontre avec André Ornaz.
On va y revenir.
Et oui.
Parce qu'il va nous le dire lui-même, Paul Misraki.
Ah, bah alors là. Très bien.
Merci.
C'est important.
Alors, on va écouter tout de suite une autre chanson. Ça ne va pas si mal. Extraite donc toujours de Normandie et toujours de l'enregistrement intégral de Radio Lyrique.
Ça ne va pas si mal dans le fond, et même je me régale dans le fond. Et c'est en première classe que je ferai mon voyage, c'est bien mieux qu'une malle dans le fond.
Il est là, le héros de nouvelle volonté à nouveau. Il est là.
Permettez, messieurs, tout d'abord que l'on vous complimente. Si celle qui vous plaît n'était pas un bon, voyez, nous aussi.
Nous sommes.
J'étais loin, je l'avoue, de m'attendre à l'aubaine inouïe qui m'échoit.
Si jamais l'une de nous vous inspire, à quoi vous hésitez, cher monsieur?
J'ai ma foi eu l'honneur de le dire, en amour je ne suis pas capricieux. Puisque je vous dis que je déclare forfait,
Marguerite, Annabelle, Raymonde, vous pouvez faire un choix parmi nous.
Je n'en puis adorer qu'une au monde.
Malgré moi,
malgré tout, je semble original, dans le fond, ça n'a rien d'anormal, dans le fond, car ce n'est pas pour elle que j'ai fait ce voyage. Je n'ai qu'un idéal, dans le fond.
«
matin, la ville s'éveille. Les nettoyeurs astiquent les cuivres, tandis que des garçons livrent de porte en porte les petits déjeuners ainsi que le journal tout frais sorti des presses. Plus tard, les appartements s'ouvrent. Chacun monte à l'assaut des ponts encore humides de l'arrosage du matin. Sur le sun deck, les tennismen le disputent aux tireurs au pistolet. À la salle de sport, l'aviron fait fureur et l'équitation motorisée console les cavaliers provisoirement démontés. Les moins sportifs s'installent au bar de la terrasse pour savourer un délicieux Manhattan tout en lisant le programme des concerts, conférences et spectacles du jour. Le déjeuner est un enchantement. L'après-midi, bridge pour les hommes et pour les dames, tournée des magasins ou visite à la modiste une tasse de thé à la main. Et maintenant, en tenue de soirée, dîner de gala, représentation de gala, bal de gala et patrouille de gala dans les cabarets avant le retour tardif jusqu'à la cabine. Quelques noctambules impénitents attendent de voir se lever l'aurore. Tandis que là-haut, sur la passerelle du vaisseau fendant les flots sombres, un marin au grand cœur face à l'océan veille sur la cité endormie sous un ciel étoilé.
Voilà encore une des actualités radiophoniques du premier voyage du Normandie. Ça fait vraiment rêver. C'était peut-être le plus beau des paquebots dans l'histoire.
Je pense que sur le plan de son architecture, on n'a jamais fait plus beau que Normandie.
Voilà.
L'étrave est un monument d'architecture navale. Et puis l'idée de la troisième cheminée qui est factice.
Ah oui, elle est factice, la troisième. Ah oui.
Normalement, les deux cheminées suffisaient, les deux machines, cheminées. Oui. Mais l'architecte qui avait dessiné ça trouvait qu'il n'avait pas une belle allure. Il y avait un grand espace vide à l'arrière. On va mettre une troisième cheminée. Il faut quand même qu'elle serve à quelque chose. Donc ils l'ont transformée en chenil. Pour les petits
chenil
pour les petits chiens qui faisaient le voyage de New York.
C'est merveilleux. C'est dommage qu'il ait eu une vie aussi courte, hein, ce pauvre Normandie,
oui,
finalement, à cause de la guerre.
Sa fin était terrible.
Alors, donc, l'œuvre étant à peu près oubliée, finalement, elle est montée. C'est pour ça que vous êtes là à Compiègne, voici quelques jours, et maintenant, à la Nouvelle-Ève à Paris. Comment ça s'est produit, cette idée de reprise, Christophe Misraki? On est venu vers vous, vous êtes allé vers eux
c'est tout un ensemble, parce qu'en fait, il y a une histoire à rebondissement dans ce truc-là. Au départ, avec Laurent Ballandras, on explore ce que l'on peut nous-mêmes remettre en scène et remettre à jour au jour.
Du fond Misraki.
Du fond Misraki.
Oui, d'accord.
Et on retrouve tous ces documents authentiques, on retrouve tous ces manuscrits, toutes ces notes, et on se dit, il faut qu'on voit Didier de Coin. Et on rencontre Didier.
Ah oui, ça a commencé avec Didier dès le départ.
Ça se passe comme ça, et on se rencontre dans une brasserie de Saint-Germain-des-Prés, d'ailleurs.
Oui, mais on fait rêver.
C'est normal.
Et là, du coup, nous sommes partis, Didier et moi, sur une idée qui était que les deux fils allaient rendre hommage aux deux pères en faisant une adaptation 2020. Un jour, Didier me contacte en me disant « Christophe, je pense qu'il va falloir rajouter de la musique parce que j'ai créé un personnage supplémentaire ». Et je pars sur ça, de mon côté, et je cherche sur Internet quelqu'un qui pourrait composer au piano et qui pourrait se glisser dans la peau d'un personnage. Donc je me balade sur le net et je finis par trouver une pianiste-compositrice à Toulouse, qui s'appelle Valérie Marie, à laquelle je me dis je peux confier l'idée de faire les ponts musicaux qui vont manquer, parce qu'on peut pas les retrouver dans des armoires, il faut les créer. Mmh. Valérie Marie provoque ensuite le fait que je contacte à Toulouse des gens pour aller la filmer en vidéo, et parmi les gens qui vont filmer Valérie Marie en vidéo se trouve une certaine Audrey, que je ne connaissais pas, mais qui me dit « Misraki, mais vous êtes le fils de Paul Misraki, je crois que mon frère aimerait vous rencontrer. Il s'appelle Christophe Mirambeau. »
Et c'est notre cher Christophe Mirambeau
il y a un an,
qui met en scène donc le spectacle.
Il y a un an, sous la neige de Paris, Christophe Mirambeau me rencontre et me dit qu'il veut mettre en scène Normandie. Et du coup, j'appelle Didier en disant « Didier, on arrête tout, il faut que je vous fasse rencontrer quelqu'un.
» Il m'a séduit tout de suite parce que...
C'est un vrai passionné, Christophe Mirambeau, un connaisseur extraordinaire.
C'est un type éblouissant.
Ouais, Didier de Coin.
Il a tout de suite des visions qui m'ont enchanté. Les lettres, il n'avait pas raconté encore. Mais c'était l'idée des filles qui prennent des ronds pour figurer des hublots. Ouais. Parce que je lui dis, mais alors comment vous allez faire avec toutes ces cabines, etc. On me dit, c'est très très simple, elles auront un hublot devant le nez.
Ah oui?
Mais oui, il a raison. C'est ça le théâtre.
Ben oui, bien sûr. Oui.
C'est une illusion encore plus illusoire que le cinématographe.
Et vous avez vu d'ailleurs tous les deux, on y reviendra, la première, hein, et vous étiez très très enthousiaste apparemment, hein, du spectacle.
Il faut dire
quand même 35 personnages sur scène.
35
c'est pas une production au rabais. Hein.
Non, et puis un rythme, ça n'arrête pas. ça n'arrête pas. Il a fait un travail. Enfin, tout le monde a fait un travail formidable.
Voilà. Donc, il faut se précipiter, je le dis, à la Nouvelle Ève à Paris, lundi et mardi, 11 et 12 février. Mais c'est pas très, très grand. Alors, j'espère que ça va être repris partout, parce que c'est un répertoire qu'on devrait défendre, et pas seulement les ayants droit, mais les forces publiques, n'est-ce pas? Au nom de la culture française, quand même. Normandie de Misraki et Henri de Coin. Avec, vous l'avez dit, Christophe, André Ornès, qui rencontre, je crois que Paul Misraki va nous l'expliquer lui-même tout de suite au cours de cet enregistrement de l'émission La Joie de Vivre.
Alors c'est à ce moment-là que vous avez créé votre première opérette?
Oui, très peu après.
Très peu après.
J'ai composé l'opérette Normandie, qui s'est donnée au Bouffe Parisien, et qui a été pour moi l'occasion de rencontrer André Ornès, qui a été d'abord l'un de mes paroliers avec lequel j'ai fait le plus de chansons, et qui est resté en plus un excellent ami à moi. Et c'est à l'opérette Normandie que je le dois.
Oui, mais il y a dans l'opérette Normandie, il y a eu deux grands succès. Il y a eu « Ça vaut mieux attraper la scarlatine ».
Ouais. Et je voudrais en savoir davantage. Voilà.
Mais est-ce que 15 jours avant l'opérette, ces airs-là étaient écrits?
Non, parce qu'on répétait le premier acte de l'orchestre pendant que nous écrivions le second. Et 8 jours avant... Il n'y avait pas encore ces deux airs-là. Ils sont venus tout à fait au dernier moment et c'est justement ces deux airs-là qui ont marché.
Je vous l'avoue sur ma conscience, je ne connais rien des passions. L'amour, hélas, c'est une science qu'on néglige dans les pensions. Afin de percer le mystère, c'est vous ce que j'ai pu ruser. J'ai scruté tout le dictionnaire et tous les statuts des musées. Mais aujourd'hui, il faut que j'ose connaître enfin la vérité. Car si je n'ai pas tenté la chose m'a bien souvent tenté. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais tout comprendre en amour. Quand je songe qu'à mon âge, j'ignore tout du bas des nages, je me sens le cœur bien lourd. Je voudrais qu'on me mette à la page, j'ai besoin de beaucoup de précision. J'ai eu tort d'être aussi sage, car je manque d'apprentissage et de préparation. Heureusement, je me rends compte que j'ai beaucoup de retard, mais je n'ai pas. Je mettrai les bouchées doubles, je voudrais en savoir davantage, discerner le comment, le pourquoi. Et pour que je m'en pénètre dans ce qu'il se doit, je veux tout connaître sur le bout des doigts. Il est temps que sans détour, je m'exerce à mon tour. Je voudrais en savoir davantage, je voudrais avoir de l'amour.
Marion Tassou dans le rôle de Barbara avec l'orchestre des Frivolités parisiennes qui fait un travail merveilleux pour tout le répertoire d'opérettes, de comédies musicales, d'opéras comiques, toujours de grande qualité. Je le dis ici, ça c'est donc ce spectacle Normandie qui est présenté à Compiègne puis à Paris dans la mise en scène de Christophe Mirambeau que vous avez, je crois, beaucoup aimé tous les deux, mis à part le fait que vous étiez d'une certaine façon partie prenante, Didier Decoing et Christophe Misraki.
C'est d'autant plus dangereux pour apprécier.
Oui, c'est vrai.
Et puis finalement, j'ai oublié tout pour le plaisir que je ressentais pendant 2h30.
Et vous ne regrettez pas de ne pas avoir fait vous-même l'adaptation?
Ah, hein, surtout pas. Non, c'est quand Christophe Misraki m'a présenté Mirambeau, j'ai dit à Mirambeau, moi, c'est pas facile du tout d'adapter ce tout, c'est immense, je vais en rajouter. Il m'a dit, mais n'adaptez pas, laissez-moi la monter dans son jus, telle qu'elle a été présentée. Dans le fond, c'est vrai, il avait raison. C'est une commode Louis-Philippe, on va pas en faire un meuble Ikea.
Il a bien raison. Voilà, oui. C'est bien malheureusement raison. Trop rare au théâtre de nos jours.
Donc, c'est parfaitement respecté et c'est beaucoup plus beau comme ça.
Voilà. Alors cela étant, pour Christophe compléter Misraki, oui. Sur la question que vous avez posée, Benoît, ce que je pense qu'il faut dire, c'est qu'on n'était pas les seuls, Didier et moi, à être heureux à la fin de la représentation. Avant-hier soir, c'était un bonheur complet à Compiègne. Et les escaliers bruissaient de commentaires très, très, très positifs. Tout le monde était enthousiaste.
Voilà, en tout cas, une reprise qui nous enchante ici. Et alors, je me suis dit, voilà, on va quand même en profiter pour aller un petit peu au-delà de Normandie, puisque vous êtes là tous les deux, que la collaboration de Misraki et de Coin ne s'est pas arrêtée là, et puis que l'histoire d'Henri de Coin nous évoque aussi d'autres grands personnages liés au cinéma et à la chanson, évidemment, à commencer par Daniel Darieux. Et quand on lit votre livre sur votre père, Didier de Coin, on a l'impression que une rupture, puisqu'il a eu beaucoup de femmes, finalement, c'était pas si grave que ça, quoi. Ça voulait pas dire une définitivement non, séparation, il éloignement reste... pour la vie, etc. Non, non, on restait bons amis, quasiment.
Il partait du principe qu'à partir du moment où on aime un jour, on aime toujours.
Ah, voilà.
Et donc, il restait très, très, très lié, très, très ami avec ses ex.
C'est ça.
Et il y avait même, à la maison, on faisait des dîners d'ex.
Des dîners
d'ex. Il les invitait. Et alors, à un moment, il disparaissait toujours dans la cuisine pour chercher du vin ou je sais pas quoi. Et les nanas restaient ensemble. Et alors, maman disait à Darieux, et donc, il t'a fait le coup de... elle blablatait sur lui en riant comme des petites folles. Papa revenait avec sa bouteille de vin. Immédiatement, elles étaient sages comme des images. Les mains... enfin, c'était formidable.
Ah oui, alors c'est comme ça que vous avez connu Blanche Montel, par exemple, parce qu'elle était
bien
restée
sûr,
proche de la famille.
Et Daniel.
Et Daniel Darieux aussi. Voilà. Donc
Blanche, c'est comme ça que je l'ai connue, effectivement. Ouais. Et Daniel, elle venait souvent à la maison. D'abord parce qu'en plus, elle a travaillé avec papa après leur rupture. Ils ont fait la vérité sur bébé d'ange.
Ils ont été mariés 5 ans, hein,
des
de 35 à 40.
Ouais, quelque chose comme ça, oui. Et donc, elle revenait travailler à la maison, oui.
Et puis, votre mère, il faut quand même citer son nom, ça a été la dernière épouse d'Henri de Coin.
Alors, elle s'appelait Juliette Charpenet.
Oui.
Elle était, n'a rien à voir avec le cinéma.
Ah oui.
Elle était fille de banquier grenoblois.
Ah oui.
Et ça a été le grand amour de papa. Enfin, il l'avait cherché toute sa vie, il l'avait trouvé.
Ah voilà.
Et c'était une copine de Darieux, d'ailleurs.
En plus.
Ah ouais, oui, c'est ah une oui. copine de Darieux. Et ce qui était vraiment merveilleux, c'était l'entente de mes parents. Enfin, le dernier mot de papa en mourant à maman, c'était « Adieu, mon amour ».
Oui, c'est beau.
C'est beau de partir là-dessus.
Ouais,
c'est beau, ouais.
Alors, on va retrouver Daniel Darieux dans une merveilleuse chanson que vous adorez tous les deux, et moi aussi, donc on est trois. Elle est extraite du film « Battement de cœur » d'Henri de Coin. Elle est composée par Paul Misraki avec André Ornès, qui donc était devenu, grâce à Normandie, le complice irremplaçable de Misraki, notamment avec Ray Ventura, mais aussi dans d'autres chansons comme cette charade.
Un peu bête, j'en conviens, la réponse sera vite faite. Je commence, écoutez bien. Mon premier, c'est un cœur timide qui pour moi ne saurait jamais mentir. Mon second, c'est de bras solides. Une charade pour laquelle on ne cherche pas, et pourtant vous restez en rade, vous donnez votre langue au chat pour que vous l'ayez bien en tête. Je la répète, écoutez-la. Les mots que j'aime en avez deviné que mon tout c'est vous.
Un petit bijou, cette charade, Didier Decoin, hein. Extrait du film Battement de cœur, un très beau film aussi, comédie justement.
Ah, oui, mais la chanson a été un triomphe aussi. Hein.
Dès l'époque.
Oui, ah, oui, pareil, que tout le monde a chanté dans la rue.
Ah voilà, une chanson donc co-écrite, si on peut dire, en tout cas écrite par Paul Misraki pour le film Nori de Coin, ce qui veut dire que les choses ne se sont pas arrêtées là entre ces deux complices. Mais bon, je reviens un tout petit peu, Christophe Misraki, bon... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'Henri de Coin parce qu'on parle souvent de Misraki, mais il faut quand même rappeler que c'est lui aussi un personnage extraordinaire, né à Constantinople, étudiant avec Charles Koechlin, très sérieusement la musique, devenant musicien de Reventura, puis aussi interprète des grands tubes de Reventura qu'il a pour la plupart composés, ensuite devenant compositeur d'opérette, puis compositeur de musique de film, mais également grand mystique qui a écrit des tas de livres sur le sujet à la fin de sa vie, enfin... Bref, Misraki, personnage étonnant. Alors, le cinéma, c'est arrivé après l'opérette dans sa carrière?
À peu près en même temps. Si on accepte les chansons données pour des films au début des années 30, la vraie première collaboration, c'est Claudine à l'école.
Ah oui.
Et c'est donc du côté de 36 pour 37, parce que le film sort en 37. Oui. Mais ces deux choses-là, aussi bien l'opérette que la musique de film, c'était une grande libération, parce que ça permettait d'envisager...
Il était bien chez Reventura quand même.
Il était très bien chez Reventura, mais là, d'un coup, les formats devenaient beaucoup plus grands, l'orchestre plus large.
Il pouvait orchestrer vraiment
pour,
à sa
et
façon.
Et pour Claudine à l'école, c'était de la musique symphonique. Et l'amitié avec Henri de Coin et Daniel Darieux s'est poursuivie au-delà de la collaboration professionnelle. Et c'est aussi pour ça que derrière, on a une collaboration sur le film Retour à l'aube et ensuite celle qu'on vient d'entendre sur Battement de cœur.
En 38, c'est Retour à l'aube, en 39, Battement de cœur, deux films importants de quoi
Retour à l'aube est plus important que ne le pensent les cinéphiles.
Oui.
C'était un film qui était assez majeur dans la filmographie de mon père parce qu'il était passionné par le mythe, le thème plus exactement, d'Emma Bovary. Or, Retour à l'aube est une forme d'Emma Bovarisme. Donc c'est un film qu'il a adoré faire, auquel il tenait beaucoup. Et Battement de cœur, parce que c'était un hymne à sa chère Danielle.
À sa chère Danielle. Pas très longtemps avant la séparation.
Non, mais la séparation, les nuées, tas de raisons complexes.
Et Retour à l'aube a un rôle très important aussi dans la musique de film de Paul Misraki, parce que c'est une musique tzigane.
Oui. Hongroise.
Hongroise, et qu'il a fallu donc qu'il se plonge dans la musique tzigane pour inventer cette musique.
Ah oui.
Et Henri l'a aidé. Et ils sont allés faire le tour des cabarets hongrois de la butte Montmartre pour se plonger dans l'univers de la musique tzigane. Et la consécration, c'est que quelques années plus tard, après la guerre, en voyage à Budapest, mon père a entendu dans un restaurant pour touristes sa propre musique présentée comme une musique hongroise.
Musique traditionnelle hongroise. Alors en tout cas, bon, ces deux hommes sont restés amis jusqu'à la guerre parce que Misraki est parti ensuite en Amérique du Sud avec l'orchestre de Reventura, mais on voit qu'ils ont continué à travailler ensemble avec ces deux films. On va faire un petit saut parce qu'il nous faut bientôt conclure malheureusement après la guerre, un film que moi j'adore et puis j'avais reçu ici en plus Magali Noël, Razia sur la Schnouf. C'est pour vous un film important de votre père?
C'est un film capital.
Capital.
Parce que c'est un film auquel il tenait. Il voulait dénoncer le trafic de drogue qui était déjà très virulent.
Oui, oui. Avec Gabin,
à l'époque. Ouais, avec Gabin. Et montrer les bas-fonds de Paris comment. Et le travail de la police.
Oui.
Et moi, c'est un film que je revois souvent.
Souvent.
Et toujours avec le même plaisir.
Alors, on va écouter la musique qui est pas, pour le coup, de Paul Misraki. Et après Raymond Legrand, qu'on vient d'entendre, là, accompagnant Darieux, là, c'est Michel Legrand, notre cher Michel, notre regretté Michel, qui joue cet air, donc, de Razia sur la Schnouf.
Thank you.
Marc Langean, c'est le compositeur donc de cette musique de Razia sur la Schnouf, film d'Henri de Coin, qu'on vient d'entendre ici, repris par l'orchestre de Michel Legrand. Et donc là, on se retrouve au temps de votre petite enfance.
J'avais 10 ans.
Vous aviez 10 ans, voilà.
Très exactement 10 ans, le film est de 55, je suis né en 45.
Vous saviez que vous deviendrez écrivain ?
À ce moment-là ?
Oui.
Pas du tout. Je vais vous dire, mon père, qui était un homme très consciencieux, avait eu besoin d'un conseiller technique pour Razia sur la Schnouf. Il avait imaginé de faire appel à l'ennemi public numéro un, qui était Joatia, parce que lui, il devait connaître comment ça se passait, le trafic de drogue.
Ah oui.
Mais comme Joatia était interdit de séjour à Paris, il pouvait venir travailler que le soir tard à la maison, en espérant que les policiers ne le repéreraient pas. Et un soir, au lieu d'aller au lit, je traînais dans le salon, on sonne à la porte, papa ouvre, et il y avait sur le paillasson le gangster type, avec la gabardine, la dandinette, parce qu'ils se dandinent toujours les gangsters, le chapeau bout de côté, le mégot de cigarette, et papa dit « Salut, Joe ». Et alors, le Joatia me regarde, et papa dit « C'est mon fils Didier, c'est Joe ». Je dis « Qu'est-ce qu'il fait quoi, Joe, dans la vie ?» « C'est gangster, petit !» Je disais, « Même pas vrai !» Il est sorti son pétard, son flingue, qui était au camp d'arrêt, il dit, « Et ça, c'est pas vrai, peut-être ?» J'ai passé une soirée fabuleuse, et le lendemain, en cours de récréation, quand j'ai raconté à mes copains que j'avais passé la soirée avec l'ennemi public numéro un, je suis devenu le héros de l'école, vous vous rendez compte. Voilà, c'était ça, mon enfance.
C'est merveilleux.
C'est une des raisons que j'ai d'adorer mon père. Il m'a fait une enfance qui était un conte.
Vous n'avez jamais eu le problème du prénom, comme on dit, quand on est fils d'homme célèbre?
Pas du tout.
Non, ça vous a jamais gêné, ça fait souffrir?
Non, au contraire. Non, rien ne me fait plus plaisir que quand on me dit du bien de papa.
Ah voilà.
Ça, c'est ma joie. Plus que quand on me dit du bien de moi, je m'en fous. Mais du bien de papa, oui, c'est important.
Et vous avez pensé, alors écrivain, vous dites pas à 10 ans en tout cas, et devenir cinéaste vous-même?
Oui, je voulais, mais je veux dire, mon père, lui, il avait vécu une époque où il était un peu une sorte de roi du cinéma. C'est facile de faire des films, il en faisait 2 à 3 par an.
C'est incroyable sa production.
C'est incroyable, et aujourd'hui, elle essayait de faire un film tous les 3 ans. C'est difficile, t'as lui 3 par an. Donc quand je lui ai dit, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, je vais faire comme toi, papa, faire du cinéma. Il m'a dit, non, surtout pas.
Ah oui, vous l'a déconseillé carrément.
Ah bah, c'est tout juste, il ne me l'avait pas interdit.
Il a souffert, comme beaucoup de cinéastes de sa génération, Carnet, Clouseau et d'autres encore, du vivier, des attaques parfois un peu perfides de la Nouvelle Vague.
Oui, parce que lui, il adorait les gars de la Nouvelle Vague.
Ah oui.
Il trouvait qu'ils avaient un génie qui révolutionnait le cinéma. Il dit, j'ai plus l'âge de le faire, mais c'est formidable. Il se trimbe. Bon. Et les autres, ils lui tapaient dessus à bras raccourcis. Alors, ils ne comprenaient pas très très bien.
Ils comprenaient pas très bien, ouais.
C'est dommage, moi je les aime. Il disait, moi je les aime beaucoup.
Pourquoi ils sont si méchants avec moi? Parce qu'ils voulaient prendre la place, peut-être.
Oui, mais je veux dire, bon, il faut tuer le père.
Oui, c'est ça, oui.
Moi, je veux pas tuer le père.
Mais les gars, non, on le comprend aujourd'hui, en tout cas.
Il voulait tuer le père.
Alors, on va se retourner maintenant une dernière fois vers Paul Misraki avec une chanson que j'adore. En plus, c'est un petit coup de chapeau à notre chère Suzy Delair, qui est dans une maison pas très loin ici, la maison de la radio, qui a 101 ans. Je lui ai pas fêté son anniversaire cette année en direct à la radio, à la fin du mois de janvier. Alors, je me rattrape maintenant au mois de février. Oui, Suzy qui a 101 ans et qui a chanté des chansons de Paul Misraki, en particulier une chanson que j'adore, Christophe Misraki, qui s'appelle « Tu ne peux pas te figurer ». Vous la connaissez?
Ah, moi, c'est une de mes préférées aussi. C'est une phrase que...
Parole et musique, pour le coup.
Parole et musique, parce que c'est une phrase que sa femme, Cécile, lui disait quand ils étaient amoureux en 1950, 49-50. Et c'est donc l'une des chansons qui est entièrement dédiée à son épouse, Cécile Cesaret, devenue Cécile Misraki.
Et il faut le dire aussi, Laurel et Hardy, qui sont en fait pas loin, puisque c'est dans le dernier film de Laurel et Hardy que Suzy Delair chante cette chanson.
Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime. C'est si bon d'être câliné. Ça ne peut pas s'exprimer comme je peux t'aimer. C'est si doux dans tes bras. Tu ne peux pas figurer quand ta main tendrement prend la mienne. Quand tes lèvres me ferment les yeux, les
chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh ben non, tu ne peux pas te figurer, c'est encore bien mieux. Ma chambre donne sur le square, et d'habitude il y a du bruit, mais tout est différent ce soir, et l'on n'entend plus que la nuit. Mets-toi bien contre mon épaule, c'est ton cœur qui bat près du mien, ce sont tes mains là qui me frôlent. Oh mon amour, comme on est bien. Tu ne peux pas te figurer comme je t'aime, c'est si bon d'être câliné. Ça ne peut pas s'exprimer comme je peux t'aimer, c'est si doux dans tes bras. Tu ne peux pas te figurer quand ta main tendrement prend la mienne, quand tes lèvres me ferment les yeux. Les chansons des amoureux diraient des mots merveilleux. Eh ben non, tu ne peux pas te figurer comme je peux.
Je crois que c'est avec cette chanson que j'avais commencé ma première émission avec Suzy, où elle était venue nous parler de sa carrière avec cette personnalité merveilleuse qui est la sienne. Et ici, donc, l'orchestre de Paul Misraki. Paul Misraki, donc, qui est à l'honneur avec Henri Decoing pour l'opérette Normandie. C'est cette semaine, lundi et mardi, à Paris et à la Nouvelle-Ève. Je suis vraiment très heureux que vous soyez venus tous les deux nous en parler aujourd'hui et puis évoquer vos pères. Didier Decoing, vous avez bien souligné cette relation très forte avec votre père, et peut-être c'était le cas aussi pour vous, Christophe Misraki, mais en même temps, sa première vie était un peu plus mystérieuse pour vous. J'ai l'impression qu'elle ne l'était chez les Decoing. Il avait un peu laisser loin derrière lui toute cette époque du music hall, quand vous avez grandi dans les années 60.
Mais c'est une période où lui-même traverse toutes sortes d'interrogations, toutes sortes de problèmes, de conflits avec la tradition familiale et avec son père en particulier. Ouais. Et c'est une période où tout ce que vous avez souligné en disant que c'était quelqu'un de très branché sur les questions spirituelles s'est développé terriblement, parce qu'il ne comprenait pas comment il était possible que dans cette famille de banquiers et d'assureurs, où si on ne reprenait pas l'affaire familiale, on était obligatoirement médecin, il ait pu, lui, être le garçon qui a composé une valse à 8 ans et demi et une opérette à 16 ans.
Ouais.
Et cette interrogation fondamentale et le conflit qui s'en est suivi avec son père l'a amené, pendant les années 30, à vivre une vie un peu plus compliquée que celle qu'on aimerait vivre à ces âges-là. Donc il en a peu parlé. Il a fallu
En fait, tout était dans les placards, mais vous-même, vous avez découvert les choses progressivement et tardivement sur la vie extraordinaire, donc, de Paul Misraki.
C'est ça.
Voilà. Bah, écoutez, c'était vraiment une joie de vous entendre. On va se quitter peut-être avec la Scarlatine à nouveau, mais dans la version des collégiens. Ça vous va, Didier Decoing?
J'adore la Scarlatine.
Et là, volontiers.
La version qui a évidemment rendu célèbre cette chanson, un des grands succès de Ray Ventura. Et puis, j'espère qu'on reparlera de musique tous les trois, parce que c'était vraiment un moment très agréable.
C'était un beau moment. Une belle parenthèse.
Volontiers. Merci, Didier Decoing. Merci. Christophe Misraki.
Merci.
Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement, et dans bien des circonstances, on s'affole inutilement. Quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien, tout ça n'a pas d'importance, car si l'on réfléchit bien, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, ça vaut mieux que d'avaler de la mortora, ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zouave au pont de l'Alma.
Dans le métro, quand il y a foule, on ne sait pas où s'accrocher. Et tandis que le train roule, on ne fait que trébucher. L'autre jour, quelqu'un s'exclame, « Mais vous m'attrapez les seins !» Je lui ai répondu, « Madame, il n'y a pas de quoi faire ce potin. »
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le soir pour mon alma.
On a la triste habitude de couper la queue des chiens. Des gens pleins de sollicitude trouvent que cela ne fait pas bien. Cette petite queue que l'on mutile dit quelqu'un, c'est pas joli. Mais d'une façon subtile, Blumenthal dit à Lévi.
Oh, 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 oh. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Oh, oh, oh.
Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora.
Oh.
Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline.
Oh,
ça vaut mieux que faire le soir au fond d'Alma.
Chez une vieille douairière de 60 ans bien sonnée, des bandits masqués entrèrent et voulurent la violenter. Le mari criait arrière, je préfère que l'on me tue. Mais brusquement la douairière lui dit d'un quoi de sa malcule.
Mais voyons Gaston.
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
Oh, mais...
Ça vaut mieux que d'avaler de la mortora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soif au pont de l'Alma.
Allons, allons, Philippe.
Oh, c'est à moi, vraiment.
Oh. Comme on parlait de supplice dans un salon tricoté, quelqu'un dit aux îles Maurice, j'ai vu des gens empalés.
Oh.
Chacun dit, c'est sanguinaire, mais un jeune homme ravi s'écria, écoute ma chouette, si vous voulez mon avis. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'avaler la mortora. Ça vaut mieux que de sucer la naphtaline. Ça vaut mieux que de faire le soir au pont de l'Alma.
Monsieur le chef d'orchestre, allez-y.
Un soir au concert colonne éclata un grand scandale. Il y avait un trombone qui ne semblait pas normal. Le chef dit d'une voix rageuse, et nous jouons à nos airs. Et vous vous jouez sans brémeuse. L'autre dit, qu'est-ce que ça peut vous faire?
Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine.
La scarlatine, extraite de l'opérette Normandie, que vous pouvez donc redécouvrir à Paris à la Nouvelle Ève lundi et mardi à 20h dans une production des Frivolités Parisiennes, mise en scène par Christophe Mirambeau, qui, si d'ailleurs le monde tournait normalement, devrait bien diriger ce théâtre d'opérette qui nous manque tellement dans la capitale. Et puis, profitez-en aussi, bien sûr, pour lire ou relire les ouvrages de mon invité Didier Decoing, écrivain, romancier et par ailleurs secrétaire général de l'Académie Goncourt.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais avant de nous quitter, eh bien encore un petit programme musical de saison, puisque je vous propose d'écouter tout de suite Winter Wonderland. Winter Wonderland par Skitch Henderson et le New York Philharmonic, c'était en 1962. Et puis tiens, puisqu'on a beaucoup parlé de Ray Ventura et de ses collégiens ce matin, on ne sait pas toujours que parmi ceux qui ont beaucoup influencé l'orchestre de Ray Ventura, il y avait un merveilleux orchestre anglais de danse et de divertissement. C'était l'orchestre de Jack Hilton.
If the moon turns green and shadows get up and walk around and clouds come tumbling to the ground, I wouldn't be surprised. 'Cause didn't you fall in love with me? If the stars turn blue and willows that weep begin to sing and winter changes into spring, I wouldn't raise my eyes. 'Cause didn't you fall in love with me? I thought I was foolish to think of romance with someone as charming as you. Thought I was hoping without any chance, but every hope came true. If the moon turns green and rivers begin to flow upstream and this is all a crazy dream, I wouldn't be surprised. 'Cause anything can happen if you can fall in love with me.
If the Moon Turns Green, c'était l'orchestre de Jack Hilton en 1935 à Londres, avec celui qui était vraiment le chanteur, le ténorisant, j'adore sa voix, du groupe qui s'appelle Pat O'Malley. Et puis tiens, je voudrais aussi répondre au message désolé de certains auditeurs, et nous étions nous-mêmes bien désolés parce que, vous le savez, notre cher Marcel Azola nous a quittés le 21 janvier dernier. On avait tout de suite décidé de reprogrammer l'émission qu'on lui avait consacrée à l'occasion de ses 90 ans, très belle émission en public. Et puis, cinq jours plus tard, c'est notre tout aussi cher Michel Legrand qui nous a quittés. Et dans l'urgence, évidemment, de l'actualité, il faut faire des choix. On a programmé, pour le coup, un programme spécial d'hommage à Michel Legrand qui a remplacé la rediffusion de Marcel Azola. Alors, voilà, ce sont des choix qu'il faut faire quand on fait des programmations de radio. Mais je précise, pour ceux qui ne le savent pas, que l'émission anniversaire Azola, elle est entièrement disponible depuis sa disparition sur le site de France Musique. Vous tapez les mots-clés « Étonnez-moi Benoît Azola » et vous retrouverez toute cette émission d'hommage à ce musicien que nous aimions, que j'aimais tellement. Thank you. Trois temps pour bien faire, c'est le titre de ce morceau du cher Marcel Azola. Ce cher Marcel, ici avec Marc Fossé et Patrice Caratini. Et puis pour terminer, vous savez que j'adore Édouard Lalo, compositeur méconnu. Je vous avais fait entendre récemment le Scherzo pour orchestre. Aujourd'hui, on termine avec le formidable final du concerto pour piano et orchestre. Thank you. Le final du concerto pour piano et orchestre d'Édouard Lalot par Nathaël Gouin au piano avec l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège sous la direction de Jean-Jacques Kantoroff. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique José Bernès et aussi Emmanuel Rose, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve donc samedi prochain. Mon invité, ce sera le chanteur Dick Annegarn. D'ici là, bon week-end à tous.
À réécouter sur francemusique.fr.